Salut les marques, salut les stars, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions phares de la WWE. On parle catch pendant une petite heure, voire un peu plus. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Monday Night Raw, le Monday Night Raw du 16 août 2021 qui se passait à la TNT Center à San Antonio dans le Texas. Jimmy Smith, Corey Graves et Byron Saxton sont à la table des commentateurs. Je suis seul, désespérément seul, pour vous parler de ce dernier Monday Night Raw, ce go-home show, comme on dit, avant SummerSlam. Donc vous m'excuserez, c'est un exercice, vous savez, que je ne préfère pas, mais parfois les impératifs sont ce qu'ils sont. Donc me voilà, seul pour vous raconter ce Monday Night Raw. Je vous rappelle que Catch Up, c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est gratos. Vous cliquez sur la petite cloche, vous êtes averti dès que une nouvelle émission sort. Et tout ça, évidemment, gratuitement. Et je vous le répète, c'est gratos. Ça coûte combien ? Eh bien, c'est gratos. Allez, revenons à Monday Night Raw. Comme je vous l'ai dit, c'est le Go Home Show, la dernière émission avant SummerSlam. Donc, il va falloir nous hyper. Et on va voir si la WWE a fait le nécessaire. On démarre avec la rivalité hot du moment, puisque c'est Matt Riddle qui va interrompre un Randy Orton qui est au milieu du ring. Ce soir, Randy Orton doit affronter Omos. On a une petite vidéo qui nous rappelle l'attaque de Randy Orton sur Matt Riddle la semaine dernière. On se souvient que Matt Riddle s'est mangé un RKO de la part de The Apex Predator. Il vient expliquer son geste, du coup, Randy Orton. Il dit qu'il n'a aucun ami à la WWE, contrairement à ce que croit Riddle. Il n'a pas besoin de l'aide de Riddle. Il aurait très bien pu pâter Jay Styles la semaine dernière sans l'aide de Riddle. De rien à personne. Et il va le montrer encore ce soir, puisqu'il va terrasser le géant Omos. Et donc, comme je vous l'ai dit, Matt Riddle vient interrompre cette promo. Voilà, lui, il lâche pas l'affaire, hein, Riddle. Il est prêt à laisser une deuxième chance à leur équipe. RK-Bro, il joue avec la foule. Hein, la foule adore Matt Riddle. Ou Riddle, comme on l'appelle désormais. Il est persuadé que Randy Orton a besoin de lui, hein, dans son coin ce soir pour affronter Omos. Et les tag team champions dont on parle, Omos et Jay Styles, finissent par débarquer. Ça s'envoie des vannes, hein, entre Jay Styles et Orton et compagnie. Matt Riddle va proposer, plutôt Jay Styles propose d'affronter Riddle ce soir, hein, histoire de régler les comptes tout de suite. Riddle accepte. On pense que Randy Orton va rester dans le coin pour aider Matt Riddle, mais non, il s'en va. Il retourne en coulisses. On a le match juste après, un joli match entre Styles et Riddle avec Omos qui est dans le coin. AJ Styles réussit à battre Matt Riddle grâce au Styles Clash et puis aux interventions d'Omos, évidemment. C'est la tristesse. Riddle a été abandonné par Omos. Il a été abandonné par Orton, évidemment. Chouette match. Le public est à fond derrière Riddle, donc le show démarre bien. La rivalité entre les champions et l'équipe dysfonctionnelle RK-Bro, c'est un peu les bons moments de Monday Night Raw ces dernières semaines, et puis ça change pas cette semaine. Ensuite, on va dans les coulisses. Sarah Schreiber interview la championne de Monday Night Raw, Nikki H, la championne de façade, hein, qui a récupéré le titre grâce à sa manette du Money in the Bank. Alors, cette dernière se dit prête pour SummerSlam ce dimanche. Mais ce soir, évidemment, elle doit battre Rhea Ripley chez le challenge de la soirée. Elle doit le faire pour elle, pour tous ses fans. La confiance en soi est déjà présente en elle. Et en nous tous, on est tous ensemble derrière Nikki. Il faut sortir tout ça et sortir son meilleur match. Elle sait qu'elle peut battre Ripley. Et elle sait qu'elle pourra rester la championne samedi soir. Ensuite, on a Kevin Patrick, l'intervieweur des coulisses, qui vient voir Matt Riddle. Il vient prendre des nouvelles de Riddle après sa défaite contre AJ Styles. Alors que Randy Orton était parti durant presque 2 mois. Lui, Riddle n'a pas abandonné la team RK Bro. Ce soir, il s'est senti abandonné. Il est triste, tout simplement triste. Ensuite, Rhea Ripley affronte Nikki H et bat Nikki H dans un match qui est pas mal avec Charlotte qui est aux abords du ring. Voilà, Riptide hein, pour la victoire de Rhea Ripley. Donc, encore une défaite de la championne Nikki H. Alors, on va dire que c'est à peu près le pire règne de champion depuis Rey Mysterio, hein, quand il se faisait terrasser par le Great Khali, Mark Henry et compagnie. Ouais, on n'est pas loin de ça. Après, quelque part, Nikki H, elle gagne le titre grâce à la mallette. Ça ne fait pas une championne particulièrement crédible, donc il n'y a pas trop de raisons qu'on lui donne plus de crédibilité que ça, sauf si on va en faire une méga méga star, mais je pense pas que ce soit le projet de faire de Nikki H l'équivalent de Charlotte Flair. Donc c'est sûr que c'est frustrant, c'est sûr que, enfin c'est surtout le gros problème, c'est que ça prend beaucoup de temps à l'antenne parce que tout ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Après le match, Nikki Cross est très énervée, donc elle va jeter sur Charlotte et vont se foutre sur la gueule. Ça n'arrête pas de se battre. Et puis après, Charlotte va aller se plaindre à la direction. Et du coup, on aura un match qui va être décidé parce qu'on lui dit, écoute, soit tu fermes ta gueule, Charlotte, soit tu acceptes un tag team match ce soir, qui sera évidemment le main event de la soirée. Charlotte doit se trouver une partenaire, donc elle va se trouver Nia Jax. Et elle affrontera Rhea Ripley et Nikki H. Donc on va avoir double dose de Nikki H, double dose de Rhea Ripley, double dose de Charlotte, et puis Nia Jax par-dessus. Voilà, il y a un match qui est le main event. Enfin, le main event, c'est une promo, le segment entre Goldberg et Bobby Lashley. Mais c'est un peu le dernier match de la soirée, hein. Ce tag team, bon, il n'y a rien à signaler. C'est la victoire des méchantes. Donc voilà. Beaucoup, beaucoup trop de temps d'antenne donné aux femmes dans cette soirée de Raw qui est déjà très très long. Double dose de Charlotte, double dose de Nikki Cross, double dose de Rhea Ripley. Ça, c'est pas une très bonne recette hein, pour qu'on puisse être diverti. Jinderman, accompagné de Shanky et Veer, met en garde Drew McIntyre. Il y a un match ce soir. Un match handicap, même, entre Drew McIntyre et Shanky et Veer. C'est simplement Drew McIntyre qui va défoncer Shanky et Veer. Il va encore menacer Jinderman avec son épée. La suite des opérations, hein, tout simplement. Rien de bien surprenant. Drew réussit quand même à être over. C'est un peu le plus important. Il a peur. Voilà, Drew McIntyre rappelle qu'il va humilier Jinder Mahal à SummerSlam. Rien de neuf sous le soleil. Alors, en coulisses, on a MVP qui prépare le repas du champion, mais il est interrompu par Kevin Patrick. MVP dit que les deux forces de la nature les plus explosives de la WWE seront sur le ring tout à l'heure. Hein, la dernière fois que Goldberg était à Raw, il s'est mangé, il a porté un spear sur MVP lui-même, et ça c'est une insulte envers MVP, mais également envers le champion Bobby Lashley. Il promet que la WWE champion va faire payer Goldberg pour ce qu'il a fait, ce qui pourrait arriver, et ça pourrait arriver soit à SummerSlam, soit plus tôt. Hein. Alors attention à tes fesses, Goldberg. MVP dans ses œuvres, hein, toujours. Hein. Toujours efficace. Retour sur le ring, c'est l'heure de le nouveau segment phare de Monday Night Raw, Moist TV, qui remplace Miss TV avec John Morrison et le présentateur à la place de The Miz. Et qui est l'invité de John Morrison? Eh bien, rien de moins que le Miz. Il va falloir s'expliquer parce que le Miz, en fait, aurait visiblement maquillé sa blessure au genou, hein, parce que ça fait des semaines qu'il est en chaise roulante après un match contre Damien Priest. Donc, le Miz est passé au gris des questions de John Morrison qui lui dit c'est quoi ton film préféré, c'est quoi ta chanson préférée, je ne sais plus. Et puis il lui dit est-ce que t'as pas quitté ta blessure depuis des semaines. Le Miz tente de se défendre, gna 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 gna. Là-dessus, il y a Damian Priest qui débarque. Il dit de toute façon, le Miz t'es qu'un menteur, je vais tous vous casser la gueule. Il fout le Miz dans une piscine. Il y avait une petite piscine avec des petits canards en plastique comme ça pour le décor hein, de Moist TV. On est toujours dans le thème du mouillé, hein, puisque Johnny Drip Drip, il arrose ses adversaires avec ses pistolets à eau là. Voilà, puis après il y a un match entre Damian Priest et The Miz. John Morrison n'aide pas le Miz pour cette fois-ci. Ils vont se réconcilier après dans les coulisses. Hein, le Miz se fait battre évidemment par Damian Priest. Et après réconciliation de The Miz et John Morrison, on sait pas trop ce qui va se passer. Dans le futur, j'ai pas trop compris à quoi tout ça servait en fait. J'ai l'impression que normalement on partait sur une scission et un face turn de John Morrison, mais après dans les coulisses, le Miz vient le voir, il dit tu veux pas me pardonner. John Morrison lui dit bah oui, je te pardonne. Et puis c'est bien. Bon, Damian Priest s'en sort encore bien, mais c'était pas. C'était un peu un segment complètement à chier donc. Voilà, je vais pas mettre un bon point à l'émission à cause de ce. Enfin, de par le biais de ce. Ce segment qui était quand même bien naze. On a Sheamus aussi qui était à la table des commentateurs entre temps, il s'était incrusté aussi qui menace Damian Priest, hein. On sait qu'ils vont s'affronter à SummerSlam, hein. Damian Priest n'aura plus de tête après SummerSlam, nous dit Sheamus, hein, qui monte sur la table et qui fait une promo. Il dit tu vas manquer de respect, je vais te défoncer. En gros, voilà, Sheamus fait un beau champion. Damian Priest fait un bon challenger, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, on aurait pu se débarrasser de toute l'histoire avec le Miz et Morrison, surtout qu'au final, je pensais que ça allait nous booker un match, peut-être Morrison-Miz pour SummerSlam, mais visiblement, c'est pas encore au programme. En tout cas, le Miz peut catcher à nouveau. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il servait à rien dans son fauteuil roulant. On va en coulisses, ça n'arrête jamais à Monday Night Raw. Eva Marie revient sur le raté de Doudrop la semaine dernière, qui avait été perturbée par la poupée qui fait des clins d'œil d'Alexa Bliss. Le grand n'importe quoi généralisé. Elle lui dit, bon, tu vas aller me chercher la poupée Lily, là. On va lui jouer à vilain tour. À Alexa Bliss. Alexa Bliss, on la voit en coulisses, et elle sait que quelqu'un va arriver pour kidnapper Lily. Donc elle dit à Lily... soit présentable, quelqu'un va arriver. Dans le terrain de jeu d'Alexa Bliss un peu plus tard, du coup, il y a Doudrop qui arrive, qui veut prendre Lily, mais Alexa Bliss lui déconseille de le faire. Il dit, à ta place, je ferai pas ça. Et Doudrop, du coup, elle a peur. Et elle retourne dans les vestiaires, brecouille, hein, comme on dit, auprès d'Eva Marie. Emma Marie qui lui met une paire de gifles, hein, qui lui dit tu sais ce que ça fait quand on envoie quelqu'un en mission et qu'on revient avec rien du tout, hein, c'est l'effet que ça te fait, ça fait à peu près l'effet là, puis elle lui met deux claques dans la gueule. Donc je trouve c'est... Alors, il y a un côté avec sa bise et ses pouvoirs magiques, c'est un peu naze, mais je trouve que ce qu'ils font avec Emma Marie et Doudrop, c'est plutôt divertissant. On attend que Doudrop pète la gueule à Emma Marie, hein, tout simplement. Il serait tardé, on aura un match à SummerSlam entre Alexa Bliss et Eva Marie d'ailleurs. On va dans la low card avec Mansour qui affronte Mace pour la 72e fois. Cette fois-ci, il va le battre. Voilà, avec toujours Mustafa Ali dans le coin, Tibar de l'autre côté. Cette semaine, c'est la victoire des gentils. Après un match assez passable parce que Mace est vraiment pas très bon. Hein. On va discuter en coulisses. Schreiber interview les champions tag team AJ Styles et Omos pour avoir un commentaire sur le match de ce soir. Alors attention, le travail scénaristique. Omos dit que Randy Orton se voit comme le Legend Killer, mais ce soir il va tuer le tueur de Legend et il va tuer la légende Randy Orton. Et Omos sera le nouveau Legend Killer. Ça va loin dans les promos. Donc après, on a le match entre Randy Orton et Omos qui se termine par une victoire de Randy Orton, en fait, puisque Omos est disqualifié, car AJ Styles va attaquer Randy Orton à l'extérieur du ring en lui mettant un petit coup de pied dans le ventre. Randy Orton va essayer de porter les RKO quand même sur Omos. Et du coup, ça ne sera jamais à rien. Après le combat, AJ Styles forcément est furieux. Omos va essayer de défoncer Orton. Il veut le lancer dans la foule carrément. AJ Styles veut essayer d'enchaîner aussi. Mais là, heureusement, il y a Riddle qui débarque sous les vivas de la foule. Il vient sauver son ami. Il défonce tout le monde. Omos est obligé de prendre AJ Styles sur ses épaules pour s'enfuir. Pendant que Riddle va aider Randy Orton à se relever. Orton prend le micro pour dire que le respect ne vient pas gratuitement, il se gagne, hein, ça il a bien raison là-dessus. Dans le temps il avait du respect pour Riddle, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas aujourd'hui. Mais après tout ce qu'il a fait à Matt Riddle, il voit que Riddle continue à venir l'aider. Donc du coup Matt Riddle a gagné son respect. Et ben tout simplement, la team RK-Bro est de retour. Les deux se serrent la main, se font un câlin. Et la foule est en feu. Grosse pop pour la réunification de la team RK-Bro. Bah, ça a été rondement mené, il n'y a pas à dire. Et puis ça fonctionne super bien puisque le public est à fond. Une belle réussite. Et puis on attend de voir le match à SummerSlam. J'ai apprécié ce moment. En coulisses, Kevin Patrick fait une interview de Jeff Hardy. On se demande pourquoi il a demandé un match face à Karrion Kross, qui lui a mis une pile la semaine dernière. Il a dit que Karrion Kross a été trop loin, c'est un manque de respect, parce qu'il a continué à étrangler Jeff Hardy après le combat, une fois que le combat était terminé. Karrion Kross est dangereux, mais toute la carrière de Jeff Hardy a été dangereuse. Donc il explique que les 15 minutes de gloire du champion de NXT. C'est presque terminé. Zygote est dans la place.
Bonjour Inside, je prends le train en route.
Tu es là, tu débarques?
Je débarque en retard comme d'habitude.
En retard pour le dernier train. Écoute, j'en étais à Karrion Kross contre Jeff Hardy. J'espère
je suis
que tu
pas
vas
arrivé au
bien.
meilleur moment. Oui, très
Voilà.
bien.
Eh bien voilà les amis, un débarquement surprise de ce bon vieux Zygote. Ça m'enlève un poids parce que faire tout ça tout seul, je t'assure que c'est pas le plus fun.
Compliqué.
Ouais. Ouais. Donc avant qu'on passe à Karrion Kross, qu'est-ce que t'as pensé de Matt Riddle et compagnie, la réunification de RK-Bro, parce que je viens de passer le segment final, où on les voit se réconcilier sous les vivas de la foule. Est-ce que toi t'as été convaincu ou est-ce que ça a été laborieux pour toi toute cette histoire?
Ouais, c'était correct. Après, le côté Randy Orton en mode, comment dire, qui arrive au début en disant j'ai besoin de personne, je me suis fait tout seul, blablabla. Il n'a pas totalement tort. Après, c'est sur l'histoire des associations, le sérieux un peu méchant avec le gentil un peu concon, parce que on va pas se mentir, Riddle a un peu une tête de, c'est un peu un concon. Et
Ouais.
il faudrait peut-être qu'il arrête un peu la Marie-Jeanne. Après, bon, on s'en doutait un petit peu qu'au moment où Orton allait revenir, il allait revoir. Enfin, moi, dans mon ressenti, je me doutais qu'ils allaient se réunir encore une fois. Je pense peut-être à l'avenir, peut-être choper la ceinture et puis après partir en feu de tous les deux quand l'équipe splittera. C'était voilà, enfin le, c'était pas fou fou. J'aurais vu mieux comme retour, surtout qu'au bout du compte, Orton aurait pu revenir depuis plusieurs semaines. Mais après, on ne sait pas le pourquoi du comment il était absent. Je
Oui,
trouve que
c'est pas
ça
expliqué.
dans l'histoire, ça arrive un peu tard. Tu vois, je trouve qu'ils auraient, comme Riddle s'est déjà fait tabasser les semaines d'avant, au bout de la quatrième semaine, c'est genre, ah oh, tiens en fait, je vais venir, je vais dire bonjour, coucou, comment ça va, moi je fais tout. La réunification c'est cool, le match peut être sympa, l'histoire elle est pas non plus, c'est du très classique hein, même avec AJ et Homos, mais bon, je suis satisfait parce que Orton, je suis, on va dire, peut-être l'un des rares à apprécier ce catcheur. Ça me fait plaisir de le revoir. Même si je n'apprécie pas son petit bouc et sa moustache. Je trouve que ça ne lui va pas du tout.
C'est dégueulasse. On l'a pas assez mentionné, mais ce petit bouc et cette
C'est
petite moustache
ça.
de merde
C'est
là.
un peu une. Enfin, je trouve que ça ressemble un peu à des acteurs pour adultes des années 70.
C'est ça. Une faute de goût là du côté de Randy
C'est ça.
Orton. Mais ouais, voilà, toute une histoire où il n'y a pas vraiment de surprise, c'est très classique. Mais bon, Comme je disais aussi, ça a fonctionné auprès du public. Hein. Il y a eu des grosses pop quand même pour le retour de Riddle. Ça met un peu Riddle over.
Oui, c'est très bien. Et puis Riddle, je pense que de bosser avec Orton, ça lui fait faire ses armes dans la grosse compagnie. Et puis je crois avoir déjà lu quelque part, je crois que Orton appréciait beaucoup, beaucoup Riddle, si je ne m'abuse.
Ouais, j'ai l'impression que le personnage de Riddle, c'est un peu Randy Orton dans la vraie vie. Hein.
C'est pas probable.
C'est pas connu pour être une flèche dans les du moins au début de sa carrière. Hein. Je sais que Triple H racontait qu'il pouvait pas trop le supporter parce qu'il était complètement con en fait.
Faire caca dans les sacs de ses collègues de travail, c'est peut-être pas terrible.
C'est ça. Est-ce que t'as quelque chose à dire sur les femmes? Parce que j'ai fait le tour aussi de la question. Charlotte Flair, compagnie, Nicky H.
C'est long.
C'est long.
Ça fait plusieurs semaines, ça tourne en rond. T'as l'impression de voir les mêmes matchs chaque semaine. C'est juste que de temps en temps, un jour, ça va être Nicky contre Charlotte. La semaine d'après, ça va être Charlotte contre Rhea, mais il y a Nicky qui va intervenir. Enfin, au bout du compte, là, ça traîne en longueur. Je pense qu'ils savent pas quoi faire de l'histoire. Alors, je pense que le combat à SummerSlam va être de qualité, mais la storyline n'est pas terrible. Mais c'est un peu la division féminine. De toute façon, à la WWE, à part, faut peut-être partir un peu du côté du show bleu, qui est un peu plus intéressant au niveau femme en termes de title picture. Je parle hein, pas dans la mid-card ou même la low-card, mais là, non, c'est Ouais. Puis je suis pas du tout fan du personnage de Nicky H. Rhea, depuis qu'elle est arrivée dans le main roster, c'est tout l'inverse de ce que je voulais voir. Moi, je voulais voir la Rhea qu'on voyait à NXT. Et bon, après, Charlotte, pour le coup, on peut lui reprocher beaucoup de choses. C'est quand même, quand elle arrive, tu sais que c'est elle la patronne sur le ring et dans les promos ou quoi que ce soit. Nicky et Rhea qui prennent du temps à apprendre avec Charlotte parce que, c'est quand même une des meilleures du business à l'heure actuelle et depuis plusieurs années.
Clairement.
Qu'on passe à autre chose.
Voilà, double ration, hein, ça fait beaucoup. D'ailleurs, on va passer à autre chose. On va chez. Donc, comme je disais, on en était à Karrion Kross qui vient attaquer Jeff Hardy en pleine interview.
Qu'il n'est pas gentil.
Il n'est pas gentil, hein, ce Karrion Kross. Et puis, donc, après, on a le match. Qui va être assez rapide hein, puisque Karrion Kross va piéger Jeff Hardy dans sa prise de soumission et Jeff Hardy sera obligé d'abandonner hein, il arrive en piteux état déjà Jeff Hardy à la base donc Karrion Kross qui a une nouvelle victoire sur l'ancien champion Jeff Hardy, une victoire sans beaucoup de classe hein, puisqu'il attaque son adversaire avant que le match commence carrément dans les vestiaires. Il n'a pas l'air de faire l'unanimité Karrion Kross, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus.
J'étais un grand suiveur d'NXT par le passé, maintenant beaucoup moins, mais sur le peu que j'ai vu de lui, ça ne me dérange pas. Enfin, l'image que j'ai de lui d'NXT, et en le voyant dans le main roster, je me dis, c'est pas le même. C'est pas exactement la même personne qu'on m'a vendu à NXT. Et puis, je sais pas, il manque je ne sais plus qui avait dit ça dans une ancienne review, mais déjà, il arrive même plus avec, Carlette, c'est ça. Je trouvais que ça donnait quand même un peu plus de. Le fait qu'il arrive avec une manager, ça rendait un peu plus de trucs. Avec l'entrée en noir et blanc, ça avait quand même beaucoup plus de gueule. Là, le mec, il arrive du jour au lendemain, en plus pour se farcir Jeff Hardy, d'où le premier combat qu'il a perdu contre lui en plus. C'est ça, je crois. Il a combattu Hardy en premier. Puis après, oui, Hardy a été testé positif Covid. Et du coup, ils ont meublé les semaines qui ont suivi avec. Avec Kesley. Du coup, je trouve son arrivée est moisie. En fait, il arrive, il affronte Hardy, le truc qui a ni queue ni tête. Et je vois pas ce qu'ils veulent faire. Ou alors, est-ce que c'est juste pour un petit plaisir de Vince McMahon à faire monter quelqu'un d'NXT et dire regarde, en fait, il est pas fait pour le main roster, redégage dans ton truc. Je ne sais pas.
Ouais, ils aiment bien ils aiment pas les envoyer direct. Alors, ils l'ont fait avec Kevin Owens. D'envoyer direct très très haut, très très fort. Ils ont essayé aussi avec Finn Balor qui s'est pété le bras assez rapidement. Mais sinon, en règle générale, ils aiment pas trop envoyer les mecs d'NXT tout de suite au sommet. Et j'ai l'impression que Karrion Kross, il faillit pas à la règle. Effectivement, il faudrait lui en mettre Scarlett.
Ouais, un peu plus. Et puis un autre adversaire que.
Histoire de le mettre un peu over parce que comme ça, il a vraiment pas l'air d'accrocher la foule. Alors il va faire un bon heal parce que les gens visiblement le détestent. Mais pour qu'il soit un peu populaire plus qu'un Jackson Riker, on va dire, ce serait bien de lui remettre Scarlett parce qu'elle apporte un petit peu de couleur dans tout ça, quoi.
Bah, c'est limite si je ne préférais pas Riker à Karrion Kross, du coup. Et après, comme tout la vie du catch-up, sa prise de finition avec je fais du mix sur ma platine avec la main sur l'oreille. C'est dégueulasse.
Ouais, c'est un gros problème. Ça, c'est l'autre point. Alors, c'est des petits détails, hein, mais ça
manque carrément. Ça fait qu'il n'y a pas du tout d'impact sur la. Enfin, je sais pas. Visuellement, c'est moche. À la limite, j'aurais préféré. À la limite, quitte à faire venir Karrion Kross dans main roster, il aurait dû arriver et défoncer, faire des squash, à la limite.
C'est ça. Ouais, c'était le candidat parfait pour ce genre de truc.
Bah, c'est ça.
Terminer avec ses coups de coude dans la nuque, là, comme il faisait à NXT. Arrêt de l'arbitre, et puis mettre une. C'est un psychopathe qui est super dangereux, quoi.
Bon, on sera
un mec qui a battu Jeff Hardy, quoi.
On se réconfortera avec la confrontation contre Joe à TakeOver.
Ouais, voilà, hein, ce sera le match ultime pour Karrion Kross, le plus gros match de sa carrière.
Moi, Joe, c'est pas un enfant de cœur.
C'est ça, ouais. Parce qu'on vous rappelle qu'à NXT, c'est parti pour un Karrion Kross, Chamo Joe, et ce sera à TakeOver dimanche soir, hein, si je dis pas de conneries.
Ouais, c'est ça, ils ont inversé les rôles. Voilà. Samedi, pay-per-view du main roster, et le lendemain, pay-per-view de la branche jaune.
Ouais, alors c'est dommage parce que TakeOver, c'est encore une fois au. Comment ça s'appelle ?
Au Capitol.
Ouais, Wrestling Center, là, le PC habilement maquillé.
Ah, dommage, ils auraient pu faire ça dans le même, même stade que. Enfin, Las Vegas, quoi.
Ouais, bah, c'est triste, du coup. Mm. Donc, on va plutôt subir, là, TakeOver, que se jeter dessus, comme on fait d'habitude.
Les takeovers sont en avance, plus on avance, ouais, ça baisse un peu au niveau. Ça.
Bah depuis le Covid, on y est plus là.
C'est hein, ça.
Qu'est-ce qu'on a ensuite dans l'émission ? Ah tiens, si on allait du côté du 24/7, on sort un petit peu, on va en plein air dans le parc. Reginald promène sa ceinture un petit peu partout. Voilà, il nous raconte un petit peu son enfance dans le parc. Il dit qu'il aimait bien venir ici faire des cascades et tout ça. Et puis derrière, on voit tout doucement Artrus déguisé en pelouse et Akira Tozawa déguisé en poubelle. Ils s'avancent doucement vers Reginald. Ils vont tenter de l'attaquer. Mais Reggie va les esquiver, s'accrocher aux arbres, faire des pirouettes. Il va faire tomber Tozawa, tomber Artrus. Il va reprendre la fuite dans sa voiture. Et Akira Tozawa et Artrus, ils sont mécontents, ils s'engueulent. C'était le petit segment 24/7. Bon, ça mange pas de pain, ça. Hein.
Non, bon, alors là, pour le coup, je me plaignais dans une ancienne, encore une fois, une ancienne review que quand ils font des combats officiels sur le ring du 24/7, je trouve que ça n'a aucun intérêt, parce que c'est carrément le contraire de ce que veut la ceinture. Quand tu regardes le 24/7, c'est comme le Hardcore Championship à l'époque, c'est de se balader dans les couloirs et de te faire défoncer par le premier pleu-pleu qui arrive. Au détour du couloir, mais là c'est drôle. Tu vois. Enfin moi ça me fait, c'est ce que j'ai envie de voir, c'est marrant. Ertrus, il est plutôt, enfin il a toujours été efficace dans le domaine, dans le registre comique. Tozawa, il est pas mal non plus, même si quand il est arrivé à WWE, j'aurais bien voulu le voir dans autre chose. Et puis Reginald, bah, je pense qu'il lui laisse la ceinture parce que ça c'est quand même, ça fonctionne beaucoup sur les réseaux sociaux, je crois le 24/7. Et du coup, comme je sais que c'est c'est pas un catcheur, mais comme c'est quelqu'un de très apprécié, bon, je pense que ça fait des vues, puis la WWE, ils sont contents avec ça.
Ouais, et puis il fait une belle pirouette par-dessus la voiture.
C'est ça. J'ai essayé de regarder quand il est parti avec la voiture, si on voyait bien le trampoline sur le reflet, mais j'ai pas vu.
Ok. Bon, bravo Reginald, on est content pour lui. Bon, bah doucement, on arrive au main event. Alors, on va nous hyper un petit peu SummerSlam. C'est évidemment Goldberg qui arrive au ring pour l'ultime face-à-face avant SummerSlam du coup. Il revient sur les propos tenus par MVP et par le champion Bobby Lashley la semaine dernière. Il nous parle de son fils. Hein. Regardez, c'est mon fils Gage. C'est toi la raison pour laquelle il est dans le public, hein, Gage Goldberg. Goldberg le pointe du doigt et dit « Regarde, c'est pour toi hein, que je suis sorti de ma retraite. » tu pouvais aller sur internet avant pour voir les matchs de Goldberg, mais ça suffit pas. Moi je veux que tu sois au premier rang pour voir qui est Goldberg, qui est ton père. Et là il se fait interrompre par Bobby Lashley qui débarque avec MVP. MVP dit que Goldberg parle beaucoup, beaucoup plus qu'avant et beaucoup plus que ce qu'on ne veut l'entendre. Normalement, Goldberg laisse ses actions parler pour lui. Il pensait qu'il pouvait revenir en étant l'ancien Goldberg, crier, lever la jambe, dire Who's next, Jackhammer et compagnie. Mais devant Bobby Lashley, ça n'a pas fonctionné. Ça, Goldberg, il l'a bien compris, hein, que ça va être différent. Pour la première fois de sa vie, Goldberg est sur quelqu'un de plus dangereux que lui, plus explosif, plus dominant. Tout simplement, il est devant le champion de la WWE, le Almighty Bobby Lashley. Alors, Bobby Lashley lui a quand même donné la chance de partir, hein, de se sauver de l'humiliation. Mais évidemment, Goldberg est trop borné, trop têtu. Il veut quand même ce gros moment à SummerSlam, ce dernier grand moment. Donc, on va lui laisser la chance. De pouvoir dire à tout le monde que sa carrière est terminée. Terminée par Bobby Lashley. Goldberg reprend le micro et parti qui tue, puisqu'il dit que tout ce que tu dis, MVP, c'est de la merde. Il lance son micro au sol. Bobby Lashley veut le frapper, mais Goldberg l'évite et lui colle un vieux spear des familles. Le show se termine avec Goldberg qui célèbre son semblant de victoire avec son fils Goldberg, Gage Goldberg, pardon. C'est pas un prénom ça, Gage, hein. Mais bref, père et fils, Lashley est au sol, le souffle coupé. On ne la lui fait pas, Goldberg, c'est encore un.
Goldberg, this is bullshit. C'était, voilà, je vois pas l'intérêt. Goldberg qui revient pour dire, ah, mon fils, tu ne m'as jamais vu combattre, blablabla. On l'a entendu il y a 2-3 ans, je crois, cette histoire. Quand le combat était plus petit, c'est ça? Du coup, je trouve que c'est, et comme d'hab, la WWE a un peu la mémoire courte sur les, selon les histoires. Voilà, puis je sais pas comment. Bon, je sais pas. Ça m'agace. C'est nul. Goldberg, on va dire, je suis quelqu'un qui appréciait beaucoup Goldberg dans sa jeunesse, mais je parle bien dans sa jeunesse, parce que maintenant qu'il est revenu pour la deuxième fois, ça donne pas grand-chose. Des matchs avec très peu d'intérêt. Le spear, il est moisi. Là, c'est le spear sur place. Il a même pas couru, il s'est retourné et il s'est jeté limite sur le sol.
Il doit faire 2 tonnes ou un truc comme ça, Goldberg, parce que.
Même Edge, qui est pas pour moi le meilleur pour faire des spears, pourrait lui donner quelques leçons, ou après on pourrait demander au Tribal Chief lui montrer ce que c'est des spears avec un peu plus d'intensité. Et j'ai peur du qui m'ennuie dans ce futur combat, c'est j'ai peur du résultat. Mon cœur souhaite que Lashley conserve, mais je me dis qu'ils sont encore bien. C'est bien foufou à la WWE pour faire gagner Goldberg parce que qui dit, je pense, Goldberg dit audience. Enfin, ça fait peut-être ramener un peu plus d'argent que Lashley et du coup c'est ça qui me fait un peu flipper. Mais je trouverais ça dommage que Lashley perde contre Goldberg malgré il est passé par. Enfin, Lashley, ça fait un moment qu'il domine le roster et ça me ferait bien chier, excusez-moi du terme, qu'il se fasse éclater par un retraité. À moins que je ne sais plus, je crois que j'avais vu que Goldberg, dans son contrat, il a encore un ou deux combats avant 2022, si j'avais bien lu quelque part. Donc est-ce que, au bout du compte, c'est ça qui me rassure pas, parce que du coup, je me dis, s'il a peut-être encore un ou deux combats jusqu'à WrestleMania, peut-être qu'il serait bien capable de garder la ceinture de SummerSlam 1, WrestleMania, TC en part-timer et tout ça, donc je ne. Bon, enfin, voilà. En gros, je traîne, mais je suis pas du tout convaincu par cette fin de show.
Ouais, c'est pas la meilleure sortie de Goldberg, c'est pas son meilleur spear, clairement pas. Alors moi, je suis moins inquiet que toi, hein. Je pense quand même que Lashley va défoncer Goldberg, histoire de monter sur le piédestal des catcheurs qui ont de l'importance.
Si ça se passe comme ça, c'est très bien. Parce que du coup, ça sera beaucoup plus bénéfique à Lashley de défoncer Goldberg. Ça lui rajoutera encore une corde à son arc et ça augmentera son Almighty. Oui, j'y arrivais avec mon anglais pourri, là.
Il y a des rumeurs maintenant, là je viens de voir aujourd'hui, sur un Goldberg Cena, peut-être pour les Saoudiens, un truc comme ça.
Oui, c'est très bien là-bas, très bien.
Voilà,
très
bien. Hein, et puis on parle toujours d'un Brock Lesnar-Lashley.
Ça m'intéresse.
Je vois bien enchaîner sur Lesnar, hein, pourquoi pas.
Bah, ça serait pas mal, et puis sur le pub, quel que soit le combat, ça peut être que très bien. C'est des physiques similaires, c'est des anciens combattants MMA, UFC, donc et ça pourrait être... Ça, sur le papier, ça me donne complètement envie, hein, un Lesnar, un Lashley.
Ouais. Beaucoup plus intéressant que ce qu'on a là, mais bon, après, moi je suis quand même assez curieux de voir... Goldberg en action, j'ai toujours peur qu'il meure, donc moi je trouve ça divertissant. Et je pense quand même qu'il va se prendre une bonne fessée par Lashley. Voilà, mais en tout cas, c'était pas le meilleur segment de l'année. Puis clairement, je pense que c'était pas le meilleur Raw de l'année pour nous avec SummerSlam. D'ailleurs, on va passer au mot de la fin, on va donner un top, un flop, une note. Je t'écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu as préféré dans ce show, qu'est-ce que t'as pas aimé, et puis une note générale.
Alors je n'ai pas bossé, hein, comme tel un papy pour les notes de fin. Je vais dire bon allez le retour d'Orton.
Ouais.
Parce que je trouve ça c'est enfin quand je devais arriver je me disais oh, bon, on s'en doutait un petit peu parce que je crois que ça avait été teasé sur les réseaux ou je ne sais quoi. Mais non ça me plaît donc top Orton flop je suis un peu embêté parce qu'il y a beaucoup
de flops hein, cette semaine hein.
Beaucoup de flops parce qu'il y avait des idées avec The Miz et John Morrison où je pensais peut-être que Morrison allait abandonner The Miz mais malheureusement non flop bon allez on va mettre le pauvre mal oh non bon non regarde c'est très simple je vais mettre ça au main event à la promo de fin qui est toute pourrie qui me hype pas du tout pour SummerSlam et la note bon je vais mettre allez je vais être gentil je vais mettre 2,5/5 mais c'est vraiment un très gentil 2,5.
Ouais, t'es gentil hein.
Ouais.
T'es gentil parce que 2,5 c'est moyen, je pense qu'on était en dessous de moyen quand même là cette semaine. Ouais, moi je vais donner mon top à Riddle, voilà, on est un peu dans le même délire. Le retour gagnant de Randy Orton à la fin, la réconciliation des RK Bro. C'est le seul truc qui fonctionne vraiment, j'ai l'impression. J'ai oublié de parler d'un truc. Ilias, il y a encore une vidéo hein, pour nous dire qu'il est mort.
Bah, je suis curieux,
Ça, on est chaud de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec.
Et puis, pareil, la WWE, ils savent quand même très bien faire des vidéos, les vidéos pour teaser des mystères. Après, souvent, on est souvent déçus, oui. Les trois quarts du temps, mais les vidéos donnent envie. Donc, du coup, on se dit, ouais, tiens, ça va être marrant, et Elias, qu'est-ce que ça peut donner sur sa guitare, sans sa guitare, parce que vu qu'il l'a cramé la semaine dernière. Ouais. Ouais, curieux. Bon, ça va durer sûrement des vidéos pendant 10 semaines, et puis à la fin, pour rien avoir, parce qu'ils auront abandonné l'idée.
Voilà, et puis qu'ils vont le virer. Voilà. Bon, comme ça, on en a parlé. Mon flop. Ouais, mon flop, je vais le donner aux femmes. Hein. C'était trop long. C'était répétitif. Il n'y avait rien. Bon, franchement, j'avais envie de zapper hein, quand j'ai vu tout ça. C'était vraiment indigeste. Indigeste chez Indigeste. Il faut vraiment qu'ils fassent gaffe parce qu'ils nous en mettent une plâtrée de Charlotte et compagnie à chaque fois. Et honnêtement, ça saoule, quoi.
Bah, c'est ça, ouais. Charlotte, elle est très, très douée, mais elle est un peu trop présente.
Faut doser, hein. Faut savoir doser. Il y a d'autres personnes qu'on peut mettre à l'écran, c'est pas un souci. De toute façon, tout le monde s'en fout à l'heure qu'il est. On se fait tellement chier à Raw que bon. La note, je vais mettre 1, hein, moi. Hein. Je vais être méchant.
L'ignoble ringside, comme dirait Tonton.
Voilà, pas pour rien, ça. Hein. C'était vraiment un mauvais Raw. Ça hype pas du tout pour SummerSlam. Heureusement que SummerSlam est déjà booké depuis un moment et qu'on a SmackDown de l'autre côté.
C'est ça.
Mais disons que sinon c'était un peu zéro pointé, mais on va quand même être 1 parce qu'il y avait des trucs qui étaient pas mal. Il est temps aussi de trouver quelque chose à faire aux Miz et à Morrison autre que d'être en feud avec Damian Priest parce que la feud elle est terminée depuis WrestleMania quoi.
C'est ça.
Donc ça sert à rien non plus.
Autant qu'ils partent en feu de tous les deux, que ça split. Parce que là, voilà, du coup, on était parti un peu sur l'idée la semaine dernière. Je me suis dit, ah, est-ce qu'ils vont continuer jusqu'au bout? Et première vue, bah, pas du tout.
Pas du tout.
Est-ce que je peux me permettre de donner l'avis de Tonton qu'il a laissé sur le Discord?
Je t'en prie, vas-y.
Alors, du coup, il nous dit « Piouf, des flops, j'aurais pu en mettre plusieurs. Disons le énième handicap match du Bellum, vivement qu'il décapite Jinder et qu'on passe à autre chose pour l'Écossais. Son top, c'est la tag team et cette rivalité RK Bros et Geomos, donc un peu l'avis général, on va dire. C'est cool, ça va donner un beau match à SummerSlam, je suis confiant. » Et sa note 2,5, « Paul Hogan show le plus enthousiasmant pour SummerSlam, mais toutes les ceintures sont représentées sur les différents segments, quelques matchs intéressants, d'autres beaucoup moins. C'était moyennasse tout ça. »
Voilà, bah, il est plus généreux que moi, ce bon vieux tonton. Bah oui, bah, tout ça se recoupe à nos avis. Hein. Ce qui était intéressant, c'était RK Bro. Et puis le reste, c'était un petit peu relou.
Et puis quant à SmackDown, qui, même si c'est pas toujours parfait toutes les semaines, SmackDown est quand même à des milieux devant Raw sur les constructions, les histoires. Ouais. Je sais pas, Raw, ça pédale dans la semoule depuis des. Bon, même pas des semaines, des mois, ça fait très longtemps. C'est, eux, ils ont du mal à. On pensait que ça allait être bien le retour au public. Ouais, la première, c'était cool, tout ça. On a vu John Cena, c'est bien. On était tout contents, mais SmackDown, même pendant le Covid, enfin, même pendant le. Quand ils étaient encore au. Ouais, comment ça, le Thunderdome.
Le Thunderdome, ouais. Ça tirait voilà, son épingle du jeu quand même.
Voilà, ça, ils étaient toujours. Enfin, moi, pour ma part, je les ai toujours retrouvés devant. Une tag team présente, ceinture heavyweight, ben, Reigns qui domine le show, tout ça. Mais là, au bout du compte, ce que je disais sur la semaine dernière, le SmackDown, c'est The Place to Be. Raw, pas trop. Hein.
C'est triste. C'est triste, Raw. Mais bon, mauvais go home show, généralement bon pay-per-view. Donc on va croiser les doigts. L'important, c'est que on ait un beau SummerSlam. Ouais, ça c'est l'air Bruce Pritchard. Hein. Il sait pas trop comment. Il a un peu de mal à faire des rows très intéressants toutes les semaines. Bon, c'est super répétitif, mais au moins les pay-per-views sont bien construits et généralement on a le payoff. Donc on va.
Ouais, c'est vrai.
On va croiser les doigts pour ce SummerSlam qui s'annonce comme le vrai WrestleMania de l'année. Bah voilà, on a fait le tour, hein, mon bon zigote.
Oui, tout à fait. Hein, c'est arrivé en catastrophe.
Oui, bah mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Donc, bah, les amis, hein, je vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. On a sorti des petites reviews bonus là de Triple Mania. N'hésitez pas à aller regarder ça. Le catch mexicain à son meilleur, commenté par Tonton Chris. Et je vous ai fait une petite review du dernier show de la NJP, Heureuse Urgence. Si vous voulez raccrocher les wagons avec le catch japonais, n'hésitez pas à aller checker ça. Ça sort un petit peu de la WWE. Je pense qu'on va vous faire une petite review du Rampage de cette semaine quand même.
Oui, ça serait une bonne idée, je pense.
Parce que ça s'annonce historique. Le retour d'un Best in the World, alors allez savoir lequel. Mais
Shane McMahon.
Shane McMahon. Shane McMahon débarque. Ah bah, ce serait le.
Ça
serait couillu. Shane McMahon débarque.
À la méthode à l'époque de la WCW en disant ah, c'est moi qui ai racheté la AEW de Tony Khan. Et hop, ça rentre en méga feud contre la WWE. Un truc interplanétaire. Voilà. Un truc honneur de fuck.
Que de la gueule de faire ça. Ok. Bon, ben voilà. Le rendez-vous est pris. Et puis bah voilà, bah, ce week-end c'est SummerSlam, NXT Takeover aussi en prime, donc bah, on va se retrouver pour analyser tout ça, la fine équipe. Abonnez-vous, mettez des likes, tout ça c'est gratos, la petite cloche. Discord, l'invitation si vous voulez venir discuter avec nous, c'est dans la description. Et puis on est aussi sur Twitter @catchupcdc, sur Facebook, sur Instagram. Mon bon zigote, bah, merci beaucoup d'être venu alors du coup.
Merci à toi, Ringside. J'ai vu un petit peu de lumière comme tout le monde, parce qu'il semblerait que Papy ne soit pas parti avec les clés pendant ses vacances. Du coup, j'ai pu rentrer. Et puis, c'est un plaisir, parce que c'est depuis les quelques mois où je suis là, c'est ma première avec toi.
C'est vrai. Et ben écoute, on fait ça à l'arrache, mais on fait ça bien. Et c'est un plaisir de travailler avec toi, mon bon zigote. En espérant qu'on refasse ça assez vite, hein, du coup.
Bah tout à fait, après moi les congés arrivent à grands pas, mais j'aimerais bien me faire quand même le petit SmackDown et un petit Rampage.
Ok, Ok, ça marche. Et puis on te met sur la liste de SummerSlam aussi. Voilà, rendez-vous est pris. Les amis, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis on se retrouve à très bientôt pour la review de SmackDown, hein, justement, le Go Home Show de SummerSlam. Allez, bonne journée. Ciao, bye bye les amis. À vous les studios.
Salut à tous.
Qu'on bosse ensemble,
je crois que c'est bien la première fois qu'on bosse ensemble. Ouais. C'est mon dépucelage
toute notre vie.
C'est ça, c'est magnifique. Quel un dépucelage, enfin bref,
tout en douceur, tout en amour.
C'est ça.